d'ensemble de l'actualité.
On peut pas passer à côté de ce programme-là. Alors, on a la chance de pouvoir compter sur un potentiel minéral très diversifié, de l'énergie propre, renouvelable, accessible, un immense territoire, un environnement d'affaires compétitif, des expertises scientifiques de pointe et naturellement un cadre environnemental qui fait l'envie de toutes les autres nations. Alors, bref, le Québec a tout ce qu'il faut pour permettre de faire un succès de ce plan-là.
Trèsville PM.
Alors, c'était Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles, un peu plus tôt aujourd'hui, donc qui annonçait là que on va investir collectivement, le gouvernement du Québec, 90 millions pour trouver puis mettre en valeur les minéraux stratégiques qu'on a sur notre territoire. Ça, c'est des minéraux. Bon, certains, vous les connaissez, le lithium, le graphite, le nickel, très bien. Mais saviez-vous que le Québec produit du niobium? Du niobium, 9 % de tout le niobium produit sur la planète, qui est produit dans une mine du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a du vanadium, on a du scandium aussi. C'est des minéraux dont on n'entend jamais parler, mais on a besoin d'un téléphone cellulaire, on a besoin dans l'équipement médical, on a besoin dans les voitures électriques. Et là, le ministre donc dit, on va investir pour essayer d'y trouver puis éventuellement ouvrir des mines puis générer de la richesse. Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Je t'ai résumé ça.
Oui.
Toi, je commence à te connaître assez, mon crapaud. A priori, tu penses que c'est une bonne idée, ça, je suis certain de ça.
Ben, je veux dire, si on développe des ressources comme celle-là, c'est évidemment une bonne idée. Maintenant, c'est l'implication gouvernementale qui me fait peur. Il n'y a pas si longtemps, on était supposé de desservir le marché du nord-est des États-Unis avec le ciment de la cimenterie mécaniste, tu sais. Je ne sais pas combien de ces projets-là le gouvernement... Les gouvernements, parce que je ne parle pas de celui de M. Legault en particulier,
oui.
Les gouvernements se sont lancés dans ce genre de projet. Ça a coûté très, très cher, puis ça n'a pas donné grand-chose. T'sais. Même le plan Nord de Jean Charest, avec lequel on pourrait faire une... Je dirais pas une comparaison, mais il y a une parenté, il y a un lien de parenté, c'est dans le Grand Nord, ça implique des négociations avec les peuples des Premières Nations. Bon, mais... Ça n'a pas donné grand-chose.
Mais est-ce qu'il a plombé le plan Nord? Moi Luc, évidemment, j'étais en politique à ce moment-là. Moi, je trouvais qu'on n'allait pas chercher assez d'argent avec les redevances, là, tu sais, les redevances minières, bon. Mais moi, le plan Nord, l'idée de travailler avec les communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue, puis avec les populations des régions de l'Abitibi-Témiscamingue, du Grand Nord, de la Côte-Nord, puis de développer des beaux projets créateurs de richesses, ça, j'ai toujours été pour ça. Puis ce qui a plombé le plan Nord, c'est la baisse drastique du prix des matières premières. C'est ça qui a planté le plan Nord, Luc, là.
Ça veut pas dire que ça arrivera pas avec ce projet-là aussi, là, Bernard.
Non, t'sais, mais ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver non plus.
Tu regardes aller la Chine, là. Il y a pas une parcelle de territoire de l'Afrique qui sont pas en train d'acheter.
Oui, mais ben justement.
En Afrique, il se trouve qu'il y a autant de richesses naturelles qu'ici.
Ouais.
Alors, moi, je suis pas sûr de... Écoute, est-ce que je serais content de savoir que le Québec s'est positionné dans ça puis qu'il est devenu un leader mondial? Oui. Est-ce que la méthode pour arriver à ça est la bonne? Laisse-moi avoir des doutes.
Actuellement, on a 22 mines au Québec, 22 mines,
oui.
Qui créent 30 000 emplois, directs ou indirects. Puis comme tu le sais, c'est des, en général, là, c'est des emplois bien, bien rémunérés dans le secteur minier.
Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, c'est
toi, ce que tu crains, là, toi, t'es pas contre l'idée qu'on développe, qu'on les trouve, ces minéraux, puis qu'on les vende, mettons, aux Américains. Actuellement, les Américains achètent beaucoup de ces minéraux-là de la Chine, imagine-toi. Ils dépendent de la Chine pour des minéraux dont ils ont besoin, notamment pour leur industrie militaire. On s'entend-tu que les Américains cherchent d'autres fournisseurs, puis là, le Québec dit, ben, nous autres, on pourrait vous en fournir. Ça, t'es pour ça. Ce que tu crains, c'est que l'État, à un moment donné, aille appuyer financièrement avec nos impôts des projets qui ne sont pas viables.
Oui, effectivement. Ou encore que l'État, qui, par toutes ces structures de gouvernance qu'on découvre de plus en plus depuis le début de la pandémie, commence à se mêler de ça, puis à empêcher les bonnes décisions d'être prises, puis Tu sais, une entreprise privée puis un gouvernement, c'est pas la même chose, tu comprends?
Ouais.
C'est pas le même processus mental décisionnel. La personne qui dirige une entreprise privée appartenant à ses actionnaires, elle va pas regarder si ça a des belles retombées dans le comté de monsieur un tel ou dans l'autre, et patati et patata. Alors, je suis très dubitatif, appelons ça
d'accord,
ici,
d'accord.
Devant ce genre d'approche.
C'est noté. Il y a eu des auditeurs qui t'ont écrit pour dire, là, vous parlez tout le temps des grands électeurs, tu peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi les grands électeurs pour qu'on comprenne comment ça va se passer mardi quand on va voir les résultats de l'élection présidentielle américaine arriver?
Bon, ben alors, dans la Constitution américaine, il est spécifié que le président et le vice-président ne sont pas élus au suffrage direct, mais indirect, et que le suffrage qui les mène à la Maison-Blanche sont ceux des grands électeurs. Ils sont au nombre de 538. Et la grande question que les gens me posent, c'est qui sont-ils? Qui les désigne? Alors, quand la Constitution a été écrite, bon, il n'y avait pas 50 États, tout ça, c'est au fond chacun des États qui décide comment ils vont être représentés. Chacun des États, chacun des partis dans chacun des États. Par exemple, on apprenait ce matin que parmi les grands électeurs de l'État de New York, les démocrates ont choisi Hillary Clinton. Alors, ça, généralement, ce sont des gens pas très connus qui sont souvent des cadres du parti politique démocrate ou républicain. Et c'est comme ça qu'on les retrouve maintenant. Ont-ils le droit de voter contre leur désignation? En d'autres mots, est-il possible qu'un grand électeur qui a été choisi par son parti, choisi une fois rendu au vote final qui doit avoir lieu, je pense que c'est le 14 décembre que les grands électeurs désignés doivent
se réunir,
Il doit y en avoir 270 qui votent pour un pour que la victoire soit confirmée. Alors, les grands électeurs ont-ils le choix ou pas? La réponse est que dans la plupart des cas, ils n'ont pas le choix. Il y a même des lois très spécifiques. On parle ici d'une loi pour décourager ce qu'ils appellent les grands électeurs déloyaux. Par exemple, en Caroline du Nord, c'est 500 $ d'amende et l'annulation du vote de la personne en question. C'est arrivé. Il y a des États où il n'y a pas de loi comme celle-là. C'est arrivé une fois dans les temps modernes où un grand électeur, et c'était en 2000, un grand électeur démocrate avait choisi de voter pour George W. Bush, se faisant renonçant à son engagement auprès de son parti. Est-ce que c'était illégal de le faire? C'est jamais devenu clair parce que c'est une zone grise, puisque personne n'a eu à le contester parce que ça n'avait pas d'effet sur le résultat final. Donc, grosso modo, les 538 électeurs sont des gens nommés par les partis et pour avoir une seule tâche. Ils se réunissent une fois. Et ils confirment le vote. Puis quand la réunion a lieu, là, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas des caméras qui revoient ça, puis tout ça. Non, ça se fait en privé. Et normalement, à part, je te donne ce cas qui s'est produit en 2000, ils votent exactement selon le mandat qui leur a été confié par les membres de leur parti. Alors, c'est de là que viennent les grands électeurs.